Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Dakar. Écho d'ici, écho d'ailleurs se délocalise cette semaine pour parler emploi, emploi des jeunes en particulier. Avec Guillaume Munier, notre réalisateur, nous avons installé nos micros à la prestigieuse université Cheikh Anta Diop, au cœur de la capitale sénégalaise, dans les locaux de l'Agence universitaire de la francophonie, que nous remercions au passage. C'est là que vient d'être inauguré un centre d'employabilité francophone, comme il en existe une quinzaine désormais dans le monde, des structures toutes nouvelles mises en place par l'Agence universitaire de la francophonie, une association qui regroupe plus d'un millier d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le monde et qui ont en commun la pratique de la langue de Molière. On va vous expliquer à quoi vont servir ces centres, ces structures dédiées aux étudiants et aux étudiantes, à tous ces jeunes qui cherchent un tremplin vers l'entreprise, vers des formations qualifiantes, un avenir tout simplement, alors que dans un pays comme le Sénégal, environ 50% de la population a moins de 15 ans. Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec l'Afrique d'aujourd'hui, celle de demain, voici nos invités. Bonjour au professeur Slim Kalbous.
Bonjour.
Vous êtes le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie.
Tout à fait.
Merci de nous accueillir. Amadou Animbaye, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, va nous rejoindre dans quelques minutes. Et nous sommes également avec Valérie Ndiaye. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste. Oui. Et vous êtes la directrice générale d'Esteval. C'est une petite entreprise sénégalaise, moyenne peut-être ?
Toute petite,
spécialisée dans la transformation des fruits en jus, en sirop, en confiture, c'est de l'agroalimentaire et on a très envie d'avoir votre avis sur cette question de l'emploi des jeunes. Bienvenue à tous, on est ravis d'être ici à Dakar, le Sénégal en joie depuis la victoire à la CAN des Lions de la Teranga. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez écouter cette émission, la partager, la commenter sur nos réseaux sociaux, nos pages Facebook et Twitter, RFI Echo. Les étudiants sénégalais en route vers l'emploi, c'est parti. Et pour lancer le débat, je voudrais que l'on écoute, comme souvent au début de cette émission, un témoignage. Il s'appelle Thomas Mendy, il est étudiant à Thiès, il est en deuxième année de signalisation, énergie et télécommunication, et il dresse un constat pas forcément réjouissant de la situation des étudiants et des étudiantes au Sénégal.
Nous voulons, après les deux ans de formation, que chaque apprenant ou apprenante puisse trouver de l'emploi. C'est ça vraiment donc notre souhait. Parce que nous ne voulons pas, après les deux ans, rester dans les rues, balader dans les rues, sans trouver de l'emploi. Et vous savez, les conditions sont tellement difficiles. Des fois, le transport, ça nous coûte très cher. Nous n'avons pas assez de moyens. Il n'y a pas... Certains, la plupart des étudiants ou étudiantes ont une demi-bourse. Donc, c'est tellement difficile de pouvoir gérer donc, la situation. Nous voulons trouver de l'emploi le plus vite possible. Parce qu'à l'université, on peut apprendre pendant jusqu'à avoir le master sans avoir vraiment une profession. Il faut que la population jeune soit consciente de, pour pouvoir relever donc, le défi de, pour le développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin des techniciens. Le Sénégal a besoin des ingénieurs pour que le Sénégal soit développé.
Voilà un étudiant dans l'espoir, certes, mais en partie désabusé. Professeur Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, que vous inspire ce témoignage, cette énergie, mais aussi cette inquiétude que l'on sent en filigrane?
C'est le moteur de tout ce que nous sommes en train de faire au profit de l'employabilité. En fait, la situation au Sénégal n'est pas différente de la situation en Afrique en général. Et la situation de l'emploi en Afrique est très difficile aujourd'hui. Vous savez qu'on considère qu'il y a à peu près 60% des chômeurs en Afrique qui ont moins de 35 ans. Et nous, en tant qu'universitaires, ce qui nous dérange encore plus, c'est que parmi ceux qui travaillent, 50%, 1 sur 2, ne travaillent pas dans la spécialité de sa formation d'origine. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme s'il avait fait des études pour rien, presque. Et cette situation ne peut pas durer.
C'est-à-dire qu'on vise à côté, finalement.
On vise à côté. Il y a un problème de décalage entre ce qu'on nous enseigne dans les universités aujourd'hui et ce que le marché de l'emploi, est-ce que l'économie demande. Et c'est ce décalage. Alors, ce décalage est décrié depuis une vingtaine d'années. On en parle très souvent. Mais en tout cas, jusque-là, les approches qui ont été suivies n'ont pas donné de grande satisfaction. L'Afrique a beaucoup investi pour la formation des compétences sur les 20 dernières années. Quand on fait le bilan aujourd'hui, il y a un taux de chômage qui est très élevé, il y a un taux de précarité très élevé de ceux qui travaillent, donc avec un travail qui n'est souvent pas décent, et en plus, il y a la fuite des cerveaux, pour les meilleurs qui partent ailleurs. Et donc la situation est vraiment très difficile. Et c'est pour cette raison que l'AEF a décidé, en tant qu'organisation de développement par le savoir, de s'attaquer à cette question de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat.
Et on va revenir dans quelques minutes sur ces centres d'employabilité francophones qui sont inaugurés les uns après les autres en Afrique et ailleurs dans le monde aussi. Valérie Ndiaye, que vous inspire à votre tour le témoignage que l'on a entendu ? Vous avez fait vos études au Sénégal.
Oui.
Comment ça s'est passé ? Quelle est votre expérience et comment vous vivez la situation des jeunes d'aujourd'hui ?
C'est notre vécu au quotidien. Moi, j'ai étudié ici à l'université Cheikh Anta Diop toutes mes études de médecine, mais aussi de nutrition. Moi, c'était pareil, hein, je peux dire que c'était la même chose. Au sortir des études, il y avait des besoins que je ne pouvais pas répondre. Par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple. Un étudiant qui arrive aujourd'hui dans une entreprise, il ne sait pas faire un compte rendu de rencontre. Il ne sait pas comment prendre la parole. Il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a des gestes simples qu'il ne connaît pas sur la pratique quotidienne. Et on reçoit aujourd'hui des étudiants Masters 2, comme dit tout à l'heure le jeune étudiant là, ils n'ont jamais fait de stage en entreprise. Et c'est justement une initiative, en tout cas, que moi je salue vraiment, parce que je déplore tout le temps cela, le contact entreprise et université, il doit être permanent.
Il faut rapprocher ces deux mondes, que ça
il
ne fasse qu'un seul monde.
Il faut les rapprocher, exactement. Moi, je donne des cours ici au niveau de l'École supérieure polytechnique, tout ce qui est transformation des fruits et légumes. J'interviens en tant que privé, en tant que vacataire. Et je dis tout le temps aux étudiants, dès la première année, bénévolement, tournez-vous vers des entreprises, vers des parents qui ont n'importe quelle structure. Allez-y pour prendre un peu de bagage que vous n'apprenez pas sur les bancs de l'université. Et en tout cas, vraiment, c'est quelque chose que je salue. Et nous sommes aujourd'hui ouverts, en tout cas, pour donner jouer notre partition dans ce mouvement qui s'est mis en place et qui donne beaucoup d'espoir à la jeunesse. Mmh. Parce que vous avez vu tout à l'heure dans les discours, lors de l'ouverture, les taux, la jeunesse, aujourd'hui, 65% de la population qui demande de l'emploi, qui a toute sa vivacité, sa jeunesse et tout à donner, mais ils ne sont pas assez outillés pour justement répondre à se prendre en charge de façon autonome.
Professeur Slim Kalbous, le Covid, la pandémie n'a pas aidé cette jeunesse africaine, moins de mobilité, moins d'opportunités aussi.
Sans doute.
Pas que ici au Sénégal et pas
oui,
que en
oui,
Afrique.
Oui, un peu partout dans le monde. Hein. De toute façon, je disais tout à l'heure.
Le problème est peut-être plus aigu sur le continent.
Absolument. Le problème est plus aigu en Afrique, mais c'est un problème mondial et qui a été aggravé par la pandémie, sans doute. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de s'attaquer vraiment à l'aspect structurel du problème. Parce que le problème, il continue. Parce que la question aussi de la massification qu'on n'a peut-être pas évoquée encore, c'est qu'il y a trop d'étudiants par rapport à la capacité d'absorption des économies africaines. Mmh. Et donc, forcément, structurellement, on produit des chômeurs. Parce que si on produit des milliers de diplômés, on est capable d'en employer une partie de ces milliers. Donc, forcément, le chômage va continuer. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire autrement ? Et surtout, nous, en tant qu'organisation universitaire, est-ce que l'université peut jouer un autre rôle ? Jusqu'à là, les universités dans les pays du Sud, dans les pays émergents, ont fait plutôt de la formation, le mieux que possible, de la recherche, le mieux que possible, mais on ne s'est pas beaucoup intéressé à la citoyenneté, à l'ouverture sur l'environnement, à tout ce qui est le plus à donner à nos diplômés avant qu'ils ne sortent de l'université et affrontent ce monde justement de l'emploi. Et donc c'est à cet aspect-là qu'on s'attaque et on s'adresse à nos universités. Vous savez, notre organisation se targue d'être le premier réseau universitaire au monde. Vous l'avez cité en votre introduction, on est plus de 1000 universités et centres de recherche sont membres de notre organisation. Nous avons donc assez d'expérience et de comparer d'un pays à l'autre pour savoir ce qui marche et ce qui marche bien d'un pays à l'autre. Et nous avons vu justement les pays où l'université s'est aussi donné le rôle comme accompagnateur vers l'emploi de ses propres étudiants, transforme la donne quand même et améliore nettement l'employabilité de ces jeunes.
Je voudrais vous faire réagir au propos d'Adam Alam. C'est le président de la Confédération des employeurs du Sénégal, un des organes du patronat. Il est à la fois ingénieur et financier. Il fait son diagnostic, il a son avis sur les problèmes actuels de la jeunesse sénégalaise.
Ce que nous constatons, c'est que beaucoup de remous sociaux proviennent fondamentalement de la jeunesse qui ne se retrouve plus en termes d'insertion sociale. La base d'abord, c'est qu'il y ait une démocratisation totale de l'enseignement d'abord et de la formation. C'est comme un train qui passe. Il faudrait que, les bases étant atteintes, que les gens puissent descendre en fonction de leurs compétences, mais que la démocratie s'applique et que l'égalité des chances se manifeste.
Et ça n'est pas le cas ?
Pour le moment, non, parce qu'il y a une formation de masse qui ne permet pas à tout le monde d'accéder à ce niveau primaire de formation. C'est cela qu'il faut changer. Il faudrait aussi qu'il y ait une meilleure jonction entre l'université et ceux qui emploient. Et c'est là où le bas blesse. Les formations, elles sont nombreuses, elles sont variées. Les universités font ce qu'elles peuvent, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de synergie, de jonction, d'études complémentaires entre ceux qui emploient et ceux qui forment.
C'est ce qu'on disait, Valérie Ndiaye, cette inadéquation, ces deux mondes qui se côtoient sans se parler suffisamment. Et le président de la Confédération des employeurs du Sénégal parlait aussi d'un système pas assez démocratique. Comment vous réagissez ?
Oui, aujourd'hui, je peux dire que les choses sont en train de changer. Par exemple, moi, je vous parle de mon vécu. Hein. Il y a des structures aujourd'hui qui nous font appel lorsqu'ils rédigent les curricula. Et là, on essaie, en tout cas, moi, toujours, mon combat, c'est de mettre beaucoup plus de pratiques, beaucoup plus de contacts avec l'entreprise au niveau de toutes les formations qui forment des diplômés. Et il a tout à fait raison. Donc, mais moi, je suis très optimiste et je dis que les choses sont en train de changer. La preuve, le centre aujourd'hui. Mais de plus en plus aussi, il y a des jeunes qui prennent en main les formations qui sont ici, qui sont chefs de département, qui ont des responsabilités et qui ont justement cette ouverture-là. Et ils nouent des conventions avec les privés comme nous. Donc moi, je suis très optimiste en tout cas pour cela. Et je dis que c'est une bonne tendance. Il faut continuer.
Professeur Slim Kalbous, justement, c'est l'un des services que proposent les centres d'employabilité financière. C'est d'accompagner les étudiants dans leur chemin vers l'entreprise. Qu'est-ce que vous proposez dans ces centres ?
Absolument. Je voudrais juste, si vous permettez, réagir très vite au propos du patron des patrons. Pour être aussi optimiste que ma collègue ici présente, pour dire sa présence à l'inauguration d'un centre d'employabilité universitaire, après tout, est un très bon signal. Parce que l'une des difficultés qu'on avait jusque-là, en tant qu'universitaire, c'est de ramener les entreprises à l'intérieur de l'université. Ils n'osent pas. Souvent, on n'a pas le même langage de ces entrepreneurs qui ont des contraintes, qui ont des obligations. Et donc, nous, parler leur langage, les accueillir dans un espace qui leur parle, où ils se sentent à l'aise, est très important. C'est déjà une partie du défi. Et alors, donc, ce centre d'employabilité, effectivement, il invite ses chefs d'entreprise de venir à l'université, d'exprimer eux-mêmes à cette jeunesse qu'est-ce qu'ils attendent d'eux, quelles sont les compétences qu'ils attendent d'eux pour les employer. Parce que souvent, ce décalage se traduit, par exemple, par une différence de critères entre ce que nous formons, nous, dans les universités et les critères sur lesquels se basent les employeurs pour sélectionner les étudiants. Et jusqu'à il y a quelques années, on était très concentrés sur la nature même du diplôme, la partie technique du diplôme. Aujourd'hui, on sait que les employeurs ne se basent pas vraiment sur ça, parce que quand ils vont être financiers, ils vont en trouver 300 pour un poste. Il veut un ingénieur mécanique, il va en trouver 500 pour un poste. Alors, comment il va choisir cet employeur? Eh bien, souvent par des compétences autres que les compétences techniques, parce que tous ces jeunes qui arrivent, ils arrivent avec le même diplôme. Par contre, celui qui sait parler, celui qui sait s'exprimer, celui qui a des idées autres que la technique qu'il a appris, celui qui a une culture générale, etc., etc. Toutes ces compétences, ce qu'on appelle les soft skills en bon français, ou les compétences transverses, les compétences complémentaires au curricula habituel, sont aujourd'hui la clé de l'emploi pour cette jeunesse-là. Bon, mais il faut qu'ils soient conscients de ça, un. Et deux, il faut qu'il y ait une structure qui leur permette d'acquérir ces compétences complémentaires. Ce n'est pas facile. Donc, vous parliez des curricula des universités. Les changer, oui, nous sommes en train de faire. C'est l'une des grandes missions de notre organisation. Mais ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans pour changer toutes les, tous les programmes de fond des universités. Parce que quand on change un programme d'université, ça veut dire qu'il faut former les enseignants. Ça veut dire qu'il faut déjà sortir les diplômes qui sont en cours, présenter les autres, les accréditer dans les agences d'accréditation et dans les ministères. C'est un travail très, très lent. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un travail qui donne des résultats de manière beaucoup plus rapide. On ne passe pas par les canaux officiels de l'accréditation ou de la diplomation, mais on passe par des formations. Alors, au choix, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas obligés de venir. C'est ceux qui veulent venir ou ceux que leurs enseignants conseillent de venir.
Un cycle de formation en plusieurs étapes.
C'est des cycles de formation après un bilan de compétences. C'est-à-dire que l'étudiant, il arrive au centre et il sait qu'il a des lacunes. Il aimerait voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme formation complémentaire. On lui fait un bilan de compétences par des experts qui disent qu'il est bon dans tel domaine, moins bon dans tel autre domaine, etc. Et en fonction de ce bilan, on lui propose gratuitement. C'est ça la nouveauté aussi de ces centres d'employabilité. On lui propose gratuitement une série de formations complémentaires qu'il va faire tout au long de l'année avant la sortie sur le marché de l'emploi. Alors, ça, c'est la grande nouveauté. Mais il y a plein de services comme ça supplémentaires. Par exemple, c'est les certifications. Aujourd'hui, nous savons que les entreprises demandent des certifications. C'est une sorte de garantie de qualité. Certification.
C'est pour
être sûr. Il dit, je parle telle et telle langue. OK, mais si vous avez une certification en langue, c'est autre chose. Vous devenez plus crédible. Vous dites, vous maîtrisez l'usage de l'informatique. OK, mais si vous arrivez avec une certification en informatique, c'est autre chose.
On ne va pas vérifier chaque fois que la personne sait faire marcher
un
logiciel.
On a constaté justement dans nos études que ces certifications professionnelles donnaient vraiment un bonus aux étudiants, mais en Afrique, souvent, ils n'ont pas les moyens d'accéder à ces certifications trop chères, souvent, et trop complexes. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner pour ces certifications, de leur payer ces certifications et de leur donner donc une arme supplémentaire. Et le dernier point, après, on reviendra, c'est l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est un volet à part.
Valérie Ndiaye, c'est votre vécu aussi, ce besoin de certification, ce besoin d'être sûr qu'un jeune est vraiment à la hauteur d'un point de vue technique, mais pas seulement.
Oui, tout à fait. Parce que même quand on recrute, que ce soit des stagiaires, des employés, on regarde le CV. Il dit, il a fait une formation en informatique à tel institut et tout. Mais moi, je ne connais pas réellement le contenu de sa formation. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau il est allé. Et c'est en le prenant que je vais justement palper de quoi il est capable. Moi, je veux savoir. Moi, ce n'est pas tellement le diplôme qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu sais faire? De quoi tu es capable de faire? Tu peux aller jusqu'à quel niveau? Que ce soit dans tous les domaines.
On va écouter à ce propos le directeur de l'ISEP de Thiès, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Son établissement accueille désormais un centre d'employabilité francophone. Écoutez ce qu'il en dit sur cette question des compétences.
On peut être très bon techniquement, mais face à un individu, on perd tous ses moyens. Et ça n'empêche qu'on est compétent, mais on n'arrive pas à l'exprimer comme il faut. Et ici, le centre est un révélateur de compétences, révélateur de talents. Et c'est vrai que nous avons des curricula dans nos établissements qui peut-être ne nous amènent pas à trop insister sur ces compétences socio-émotionnelles. Et là, ils auront tout le temps, avec ce centre-là, de s'exercer en dehors des heures curriculaires très figées que nous avons dans nos établissements.
Donc c'est former des professionnels, plus que former des techniciens.
Former des professionnels et surtout les forger. Nous les formons, quand ils viennent ici, ils sont forgés, définitivement forgés.
Le directeur de l'ISEP de Thiès qui nous dit forger des adultes, former des adultes. pas seulement des gens efficaces techniquement, professeur Slim Kalbous.
Absolument, il a bien illustré ce qu'on voulait dire, et c'est l'objectif de ces centres. Hein. Alors, ces centres, ils ont la particularité d'être à l'intérieur de l'université, ce ne sont pas des centres dans des agences dans l'emploi, parce qu'on a constaté que les formations complémentaires qu'on peut proposer, justement pour l'accompagnement, comme disait le directeur de l'ISEP, après la diplomation, ne donne pas de bons résultats. Pourquoi ? Parce que le jeune, il est en période d'échec. Le jeune, il est déjà en chômage depuis des mois, il commence à douter, même son diplôme pour lui ne vaut plus grand-chose. Et donc lui proposer, après un an, voire deux ans d'année de chômage, de dire « allez, reviens à l'école, on va te former pour trouver un travail », ça ne marche pas et ce n'est pas bon. Alors que quand on propose une formation complémentaire et que l'étudiant est encore à la fac, il est encore apprenant, il a encore envie d'apprendre, et l'apprentissage est plus facile et le résultat est immédiat parce qu'il est concentré sur la question de l'emploi, il est concentré sur sa formation, il veut plus de compétences, il en veut. Et en début d'émission, il y a quelque chose de très beau que vous avez dit, c'est par rapport à cette énergie de la jeunesse. Ben, l'idée, c'est comment libérer cette énergie. Oui, l'Afrique a beaucoup, beaucoup de jeunesse. Certains la voient seulement comme un problème ou comme un défi, mais pas comme une opportunité, pas comme une chance. Pour moi, c'est une chance, à condition de savoir libérer l'énergie de cette jeunesse. Et nous, alors, modestement, avec ces centres, il n'y a pas que ces centres aujourd'hui, parce qu'à l'occasion de votre venue, effectivement, nous avons fait cette inauguration, cette belle inauguration. Vous avez vu que tout le gratin des ministères, des agences spécialisées était là. Donc il y a quand même une implication nationale ici importante au Sénégal autour de ce centre d'employabilité francophone. Mais au-delà de ce centre, c'est l'idée de changer de mentalité, de dire libérant l'énergie des jeunes, donnant la chance aux jeunes, et ils sont capables de faire des choses extraordinaires et de dépasser ces problèmes qu'ils vivent.
Valérie Ndiaye, vous sentez ces freins aussi à l'entrepreneuriat, parce que les jeunes au Sénégal sont aujourd'hui majoritaires. Ils vont arriver nombreux sur le marché de l'emploi. Si on ne les laisse pas entreprendre eux-mêmes, ça ne fonctionnera pas.
Comme l'a dit tout à l'heure le directeur de l'ISEP, aujourd'hui, les étudiants sont formés, par exemple, un étudiant en marketing, communication, il est formé à beaucoup, beaucoup de choses. Il a reçu beaucoup, beaucoup d'enseignements, mais il ne sait pas faire. Et jusqu'au diplôme. Et ça, c'est grave. Par exemple, je recrute un jeune, justement, marketing, communication, etc. Et je l'amène avec moi sur le terrain. Donc, il apprend tout. Comment se tenir, comment s'habiller, comment saluer un client. Et ça, l'étudiant qui termine aujourd'hui ne sait pas le faire. Il n'a jamais été en contact direct ou alors même en simulation.
Bon, mais ça c'est pour être
parfois
employé, mais
pour
créer une entreprise, pour créer sa propre entreprise.
Mais pareil, s'il est assez outillé, il aura, entre guillemets, l'audace, entre guillemets, excusez-moi du mot, mais des fois, il faut être culotté, hein. Il faut aller réclamer quelque chose dont vous avez besoin ou quelque chose qui vous est dû. Donc, l'étudiant, justement, je pense, avec ce centre-là, verra peut-être aussi des expériences de personnes qui sont déjà passées par là, qui vont lui parler, qui vont l'outiller pour qu'il ose plonger. Parce que souvent, il y a des étudiants qui veulent entreprendre. Bon, ici, ce qui est le plus facile, on copie ce que l'autre fait. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut des étudiants qui créent quelque chose de nouveau, qui innovent. Mais il faut vraiment qu'ils soient assez outillés pour oser. Souvent, c'est juste faire le pas.
Est-ce qu'ils sont freinés par leurs aînés ? Est-ce que c'est un, on va dire, un,
moi, je dirais
un
oui.
poids qui pèse ?
Moi, je dirais oui. Parce que ici, en tout cas au Sénégal, pour le moment, moi, je peux dire que ma propre expérience, quand j'ai voulu plonger dans l'entrepreneuriat, tout le monde m'a freiné. Tout le monde autour de moi m'a freiné.
Dans la famille.
Un médecin qui va, même les collègues et tout, on n'a jamais vu ça. Un médecin qui va entreprendre, créer une entreprise pour faire des boissons à base des fruits locaux, alors que tout le monde connaît la richesse des fruits locaux en micronutriments, c'est très bon pour la santé. Mais quelques rares proches m'ont dit « vas-y, puisque c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu veux faire ». Mais la plupart, dans mon entourage, la famille un peu éloignée, les voisins, etc., tout le monde venait rendre visite à mes parents pour dire mais le gâchis de diplôme, là, que c'est du gâchis. Hein? Pourquoi vous la laissez faire et vous ne lui dites rien, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, le jeune n'a pas beaucoup d'espace où le jeune sera outillé. Il verra des expériences de personnes qui ont réussi dans ce qu'il veut faire. des gens qui vont lui dire « tu y crois, vas-y, tu es capable ». Voilà ce que aujourd'hui le jeune recherche. Et le privé est bien placé pour ça. Le chef d'entreprise ou quelqu'un en tout cas qui travaille en entreprise est très bien placé pour détecter déjà chez le jeune, parce que tout le monde n'est pas aussi capable pour faire l'entrepreneuriat, détecter ceux qui ont cette graine-là qui peut donner quelque chose. Et les renforcer et leur donner ce courage. Moi, aujourd'hui, par exemple, je trouve beaucoup d'inspiration sur des vidéos, hein, sur le net, vous savez, on voit tout, de jeunes leaders, de jeunes qui des fois, il y a des moments où vous voulez tout laisser tomber. Non, il y a des gens qui sont là pour vous dire, non, c'est normal que tu échoues une fois, il faut recommencer, etc. Donc, c'est vraiment, je pense que cet espace va créer, justement, c'est l'environnement qui va permettre à cette jeunesse-là de trouver ces réponses-là.
L'entrepreneuriat, professeur Slim Kalbous, vous qui connaissez d'autres pays dans le monde francophone, est-ce que la situation est différente? Est-ce que les mentalités sont différentes quand on est au Liban, au Canada, peut-être, en Haïti?
Oui, absolument, absolument. La culture intervient beaucoup sur l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la prise d'initiative. La prise d'initiative n'est pas toujours encouragé dans toutes les cultures. Mmh. Vous en parlez à l'instant, madame, parlez justement des lourdeurs, parfois sociétales, qui peuvent malheureusement peser sur un jeune qui veut entreprendre. Et c'est pour ça que dans les centres d'employabilité, on propose ce pôle un peu original qu'on a appelé le pôle de pré-incubation et pas d'incubation. Pourquoi un pôle pré-incubation de pré-entrepreneuriat, on va dire? Parce qu'on a constaté que le taux d'échec dans les incubateurs africains est extrêmement élevé. En fait, il y a très peu d'entreprises qui voient le jour, malgré qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les gouvernements, mais au bout, on ne voit pas beaucoup d'entreprises créées. Et l'idée, c'est que quand on a fait des études pour comprendre pourquoi, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas un moyen, il n'y avait aucune structure qui sélectionne les meilleurs candidats pour faire de l'entrepreneuriat. Il ne suffit pas de dire « je voudrais être un entrepreneur » pour l'être, parce qu'il y a des formations à faire, il y a un profil à avoir. Et donc, on s'est dit, on va proposer une série de formations à l'esprit entrepreneurial. Et ça, c'est pour tout le monde, parce que l'esprit entrepreneurial, justement, c'est la curiosité, c'est le fait d'être organisé, le fait de savoir prendre des initiatives, le fait de penser autrement que simplement techniquement.
Gérer une trésorerie.
Alors, il faut être inventif. Quand on est entrepreneur, il ne suffit pas de faire le quotidien et faire juste ce qu'on nous dit de faire, mais de créer en permanence. Ça s'apprend aussi. Et donc, on s'est dit, on va faire une série de formations pour tous, mais les coachs, les tuteurs qui vont être dans ce centre d'employabilité, ils vont détecter les étudiants qui ont le profil le plus à même d'aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur créative d'entreprise. Parce que tout le monde ne peut pas être créateur d'entreprise. On peut être un bon salarié, on peut être un très bon employé, mais pas forcément entrepreneur pour tous. Et ceux qui auront ce profil...
Il y a des attaquants, des milieux de terrain et des défenseurs.
Absolument,
et des gardiens
absolument,
de but.
Absolument. Ça tombe
et
bien
un entraîneur,
que vous fassiez
ce
parallèle avec le foot, parce qu'on est chez le champion d'Afrique. Alors. Donc on sait de quoi on parle. Non mais absolument, absolument. Et donc l'idée, c'est de détecter les tout meilleurs au sens où du profil le plus adapté et de les proposer aux incubateurs. Et c'est ainsi qu'on va, je l'espère, augmenter largement le taux de réussite des entreprises qui sortent des incubateurs universitaires ou des incubateurs étudiants.
On va vous remercier, professeur Slim Kalbous.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, d'avoir participé à cet écho d'ici, écho d'ailleurs, à Dakar. Pour parler emploi des jeunes, nous sommes dans les locaux de l'AUF à l'université Cheikh Anta Diop. On continue le débat. Et de nouveaux invités nous ont rejoints dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, bonjour.
Bonjour.
Amadou Alim Baye, comment vous ressentez cette jeunesse? On va l'écouter tout à l'heure, elle est autour de la table. Cette jeunesse impatiente de trouver des emplois malgré les freins, malgré les difficultés, c'est valable ici au Sénégal, c'est valable dans plusieurs pays de la région en Afrique de l'Ouest.
Alors, je crois que cette impatience-là est tout à fait compréhensible, parce que jeunesse, c'est synonyme de dynamisme. Jeunesse, c'est synonyme d'aventure. Jeunesse, c'est synonyme de créativité et d'inventivité. Alors, donc, la jeunesse, c'est énormément d'opportunités, mais malheureusement, c'est aussi énormément de frustration, parce que l'état des économies concernées, c'est-à-dire les économies africaines, ne présente pas ces opportunités et pour la jeunesse. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est extrêmement important. Nous sommes en train, avec les centres d'employabilité francophones, de travailler sur la formation. Mais quand on parle de formation, il faut qu'on se comprenne très bien. La formation générale est une base, mais elle est loin de suffire. Certainement, il faut plus de coaching. Il faut plus de mentoring.
Ça veut dire que le système universitaire tel qu'il existe là, que vous représentez, ne fonctionne pas suffisamment dans ces domaines ?
Tous les systèmes universitaires, il faut que les gens comprennent que c'est une question de vocation. L'université forme des gens avec un niveau de culture, avec un niveau d'analyse suffisant pour les préparer à beaucoup de situations. Maintenant, quand on a besoin de compétences pratiques, c'est d'autres outils. Si vous voyez maintenant, la plupart des grandes entreprises ont ce qu'on appelle les corporate universities, c'est-à-dire les universités d'entreprise, qui fonctionnent avec des schémas, des systèmes de certification qui n'ont rien à voir avec ce que nous, universités standards, nous avons. Mais on a besoin des deux. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Alors, maintenant, nos étudiants font face à un défi d'employabilité. Il faut réorienter les formations. Ça signifie que la formation qu'on donne, elle est bonne. Mais il faut ajouter autre chose. Qui consiste moins en des connaissances à transmettre qu'en des attitudes à développer. C'est pour ça que je vous ai parlé de coaching tout à l'heure.
Est-ce que vous diriez que l'État sénégalais en fait aujourd'hui suffisamment pour les jeunes dans ce domaine, effectivement, de l'enseignement supérieur ? Est-ce qu'il faut accorder davantage de bourses d'études à des jeunes qui en ont besoin? Est-ce qu'il faut financer une partie des frais de scolarité pour démocratiser l'enseignement supérieur?
Alors, je crois que si on regarde le volume de ressources qui sont mobilisées, je crois que c'est impressionnant. Si vous regardez tout ce que l'État dépense dans l'éducation, tous les ordres d'éducation, ça fait quand même 1 000 milliards. Ça fait 20% du budget. C'est très costaud. Alors, moi, je dirais plutôt qu'on a besoin de réorienter les ressources. Il y a beaucoup d'argent qu'on met justement dans les bourses, qui serait peut-être plus utile ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont des bourses et qui n'en ont pas forcément besoin pour éduquer. Il y a un problème de ciblage. Les bourses, c'est des aides. C'est pour permettre à des gens qui sont talentueux et qui n'ont pas les moyens d'entrer dans le système.
Donc il faut sélectionner les boursiers.
Nos études montrent que 70% des boursiers n'ont pas besoin de l'argent de l'État pour et finir leurs études.
Deux questions. Est-ce qu'il faut construire davantage d'universités? Est-ce qu'il faut former davantage d'enseignants?
Je pense qu'il faut réorienter les ressources. Réorienter les ressources, ça signifie beaucoup de choses. Créer certainement des universités dans des zones défavorisées, mais ça signifie aussi renforcer les initiatives privées dans le domaine de l'éducation. Si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'élémentaire et du secondaire, mais le privé a complètement pris le dessus sur le public. Et ça pourrait aussi se faire dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'État serait toujours là parce que l'éducation, c'est une mission de service public. Mais l'État peut organiser le système de telle manière que ses objectifs soient atteints et que ses ressources soient minimisées.
Est-ce que les enseignants sont suffisamment formés?
À l'université, les enseignants sont suffisamment formés. C'est pour faire quoi? Si vous voulez que les enseignants forment des entrepreneurs, je vous dirai tout de suite que ce n'est pas forcément les bonnes personnes pour former les enseignants. Les enseignants sont là pour former dans leur discipline. C'est de bons spécialistes de la mécanique, ils le font bien. C'est de bons spécialistes de la médecine, ils le font bien. C'est de bons spécialistes de journalistes, ils forment des journalistes. Mais pour les entrepreneurs, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'être opportuniste. On a besoin d'inspirer confiance. On a besoin d'être fiable. Ou bien, au moins d'apparaître comme tel. Vous voyez, c'est tout ce qu'on appelle les soft skills. Vous pouvez voir quelqu'un qui est un excellent mécanicien, mais qui ne pourrait pas gérer une entreprise mécanique. Quelqu'un qui est un excellent chercheur, mais qui ne soit pas un bon manager de la recherche. Vous voyez, le management, c'est plus des attitudes que des aptitudes. Les universités maintenant doivent inventer de nouvelles missions et de nouveaux outils. De nouvelles missions, c'est l'employabilité justement, qui va de pair avec l'entrepreneuriat. Et les nouveaux outils, c'est les accélérateurs, c'est les incubateurs, c'est les systèmes de certification, vous voyez, qui n'ont rien à voir avec les formations standards qu'on faisait.
Merci à vous, Amadou Alimbaye, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je sais que votre agenda est chargé. On va vous laisser repartir. Valérie Ndiaye, directrice générale d'Esteval, je me tourne à nouveau vers vous. Comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit ? Est-ce que vous diriez qu'effectivement, l'État sénégalais est suffisamment actif pour la formation des jeunes ?
En tout cas, si c'est suffisamment actif, je ne veux pas m'engager. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est actif. L'État a compris qu'il faut investir, il faut faire des efforts dans l'entrepreneuriat des jeunes et donc mettre tous les moyens qu'il faut, que ce soit dans la formation, que ce soit dans les appuis aussi financiers, parce que souvent, le jeune entrepreneur, même s'il est outillé, il est bloqué lorsqu'il faut financer son activité. Donc là aussi, l'État fait des efforts. Il y a aussi beaucoup d'autres organismes qui font des efforts. Moi, je dis que la dynamique aujourd'hui, elle est lancée au Sénégal, en tout cas. On a compris que l'entrepreneuriat est une solution pour la jeunesse et on y met les moyens. Ce n'est pas suffisant, mais c'est en train de se faire. Et comme je vous ai dit, moi, je suis très optimiste et je pense qu'on va y arriver.
Il y a même une structure qui a été créée, une délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER. On écoute son délégué général, Papa Amadou Sarr.
On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, que l'État ne crée plus forcément beaucoup d'emplois et les secteurs privés ne recrutent pas forcément avec la crise, la Covid qui est passée par là. Et qu'aujourd'hui, les jeunes veulent devenir leur propre patron et créer de l'emploi et créer de la valeur. Et c'est très bien parce que ça crée une recherche et ça crée des alternatives, même pour les États. Donc nous ne faisons qu'encourager cela. C'est pour cela que l'État du Sénégal, à travers l'impulsion du président Macky Sall, a mis en place la structure que je dirige, qui est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui est dotée d'un capital annuel de 50 millions d'euros. Pour accompagner les PME et les start-up. Aujourd'hui, il y a plus de 150 millions d'euros investis sur 150 000 PME et on veut vraiment tripler ou quadrupler ces chiffres à l'horizon 2025.
Des propos recueillis par Charlotte Cosset, Valérie Ndiaye, ça sera ma dernière question qui vous sera adressée, les jeunes et les femmes.
Tout à fait. Et vous savez, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour les filles à l'école, leur maintien à l'école, pour que les filles puissent être diplômées. Donc aujourd'hui, elles sont là sur le marché de l'emploi et l'entrepreneuriat est aussi comme les garçons. Je pense que je n'ai pas les statistiques, mais les jeunes filles sont très bien représentées et les femmes en général. Parce que même une femme, il y a des femmes qui n'ont pas fait des études et qui sont entrepreneurs aujourd'hui, qui sont chefs d'entreprise et qui ont réussi, qui réussissent et qui bénéficient aussi de tout cet appui-là de l'État. Donc vraiment, moi, je salue toutes ces initiatives-là. Que voilà, j'encourage et je dis en avant. J'ai beaucoup d'espoir, en tout cas, en la jeunesse. Et ce link, justement, entre l'université et les entreprises, le monde du travail, est très bénéfique. Et je répète encore, il faut mettre en avant la créativité de cette jeunesse-là. Créer, voilà, qu'est-ce que votre entreprise va apporter de différent de ce que tous les autres font jusqu'à présent ? C'est ça qu'il faut réveiller chez l'étudiant, c'est ça qu'il faut réveiller chez le jeune. Et on arrive à des expériences très intéressantes.
Eh bien, on va l'écouter, cette jeunesse, dans les dernières minutes de cette émission. Merci, Valérie Ndiaye. Bonne chance à Esteval, votre entreprise qui transforme des fruits locaux en jus, en sirop, en confiture. Les auditeurs de RFI, vous connaissez déjà, vous avez participé à plusieurs de nos émissions. Bonne chance à vous. Cette jeunesse, effectivement, j'accueille deux jeunes hommes et une jeune femme. Je vais vous les présenter. La jeune femme, évidemment, d'abord, Aïssatou Wilan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en licence de ressources humaines. Vous faites un stage dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous êtes aussi start-upeuse. Racontez-nous en quelques mots votre vie du moment entre les études et l'entreprise. Vous avez un pied de chaque côté, c'est ça à peu près ?
Exactement, on peut dire ça. On peut dire que c'est un peu compliqué, mais quand même, nous avons la volonté et l'engagement de vouloir entreprendre. Donc, de ce fait, nous devons mobiliser les moyens nécessaires et nous sacrifier en quelque sorte pour pouvoir continuer nos cours parce qu'il faut vraiment se former dans certains domaines, avoir les diplômes nécessaires pour pouvoir vraiment entreprendre et gérer comme il le faut l'entreprise que nous créerons plus tard. C'est ça.
Votre activité actuelle, vous dites start-upeuse, qu'est-ce que vous faites exactement ?
En fait, nous avons créé une petite start-up de biochar. Le biochar, c'est du charbon bio fait à partir de résidus agricoles. C'est-à-dire, par exemple, les écorces de coco, d'arachide, de riz, tout ce qui est écorce agricole, on l'utilise et on les carbonise pour en faire du charbon bio. Le charbon bio, c'est un charbon qui ne dégage pas de fumée, donc ça rentre dans l'écologie. Et aussi, ça ne salit pas les mains. En plus, c'est beaucoup moins cher que le charbon de bois.
Effectivement, cette préoccupation pour l'environnement, bravo, on vous souhaite bonne chance. Mohamed Dieng, bonjour également.
Bonjour.
Vous êtes aussi entrepreneur. Alors vous, c'est le domaine des nouvelles technologies. Ouais. La blockchain, les cryptos, les NFT, des sujets vraiment, vraiment à la mode.
Ouais. Donc je pense qu'actuellement, c'est à la mode parce que dans les pays anglophones, ils sont en avance par rapport à ça. En Afrique, au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud. Donc, ce sont des nouvelles technologies qui sont intéressantes, autant pour la jeunesse et autant pour l'État, le gouvernement et les régulateurs de manière générale.
Comment vous parleriez de ce tremplin entre l'enseignement supérieur, les écoles et ce monde de l'entreprise ? Comment ça s'est passé pour vous et comment vous analysez les difficultés d'une partie de la jeunesse sénégalaise ?
Je pense que depuis que j'ai été petit, j'ai été anticonformiste. Donc, à la base, quand j'étais au collège, je m'ennuyais un peu par rapport aux cours. Donc, en parallèle de ça, j'ai proposé à des camarades de faire un projet sur le cinéma. Donc, on a commencé avec des courts-métrages quand j'avais 15 ans. Après, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université. Après 2 ans, quand j'ai été sélectionné pour le cycle ingénieur, donc j'ai commencé les cours, mais je me suis rendu compte que c'était ennuyant aussi. Donc, j'ai monté un projet en parallèle avec des camarades pour concevoir des solutions électroniques, des solutions mécaniques, informatiques. Donc, la transition n'a pas été facile parce que je me suis rendu compte qu'il fallait faire des sacrifices en certains moments. Donc, soit c'était le cours, soit c'était le projet. Donc, moi, à la base, si on m'a renvoyé, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, c'était ce que je voulais faire. Donc, on faisait cours de 8h à 18h30. Ensuite, à partir de 19h jusqu'à 21h, on allait au resto. À partir de 22h jusqu'à minuit, on faisait les TD, on préparait le cours de lendemain. À partir de minuit jusqu'à 3h du matin, on était sur notre projet. Donc, on dormait minimum sur les 3 ans, 4 heures ou 5 heures par jour. Mm. Donc, ça, c'était intense, mais on l'a fait. Personne n'a échappé au système. On a eu notre diplôme, on a eu notre master. Et je pense que ça, c'est une expérience qui est unique et qui m'a permis d'être là aujourd'hui.
Vous n'avez pas eu peur. C'est un mot qui revient souvent hein, chez les jeunes. À la fois, je n'ai pas peur, mais en même temps, la jeunesse a peur.
Je pense que c'est quand on est jeune qu'on peut faire des sacrifices. Et moi, je suis prêt à sacrifier les 10 ans pour que je puisse gagner sur les 50 ans. Et ça, c'est un mindset qu'il faut avoir, que les jeunes doivent comprendre que c'est le moment de faire des sacrifices et pas plus tard.
Mohamed Lamine Kébé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes responsable à l'École supérieure polytechnique, ici à l'Université Cheikh Anta Diop, responsable du pôle innovation, c'est bien cela ?
Oui, entrepreneuriat.
Et entrepreneuriat, c'est ça. Racontez-nous quel est votre travail. Alors, vous êtes aussi très jeune, hein, mais quel est votre travail avec les étudiants ?
Alors, je suis déjà d'abord entrepreneur. Donc, j'ai cofondé une start-up africaine qui s'active dans tout ce qui est agriculture intelligente, qui s'appelle Tolbi. D'ailleurs, même, on a été lauréat du Grand Prix du président de la République pour l'innovation numérique, hein, qui est quand même la plus haute distinction pour une start-up qui est dans le numérique. Alors, effectivement, je suis un responsable du pôle entrepreneuriat et innovation. Donc, c'est un centre qui s'appelle La Forge. Et qui a mis en place quand même un écosystème pour permettre aujourd'hui aux étudiants de l'École supérieure polytechnique à ce qu'ils puissent très tôt s'initier dans tout ce qui est entrepreneuriat et créer de la valeur dans l'écosystème.
Comment, effectivement, les difficultés dont on a parlé, vous les ressentez, vous, au quotidien ? On a parlé tout à l'heure des freins dans l'entourage. Alors, ça peut être la famille, ça parfois les amis ou les plus âgés qui font parfois un peu reculer les jeunes dans leurs envies d'entreprendre.
Ok, donc je pense que déjà, ce qui est intéressant, c'est que moi, en fait, j'ai déjà vécu ça. Et que c'est un problème, en fait, je pense, de culture et de société. Et c'est là, en fait, au-delà même de l'aspect compétence, que l'étudiant lui-même, le jeune, doit pouvoir, en fait, une certaine maturité, une certaine communication à très tôt, faire part, en fait, de son projet à sa famille, expliquer, en fait, le pourquoi, en fait, certaines décisions, à ce qu'il puisse, en fait, le comprendre. Puisque très tôt, si la famille, l'entourage, que ce soit les parents, que ce soit même si on est marié, ou que ce soit même... je ne sais pas, les amis, il faut que très tôt, à ce qu'ils puissent s'approprier le projet, t'encourager, puisque comme Mohamed l'a dit, il y aura beaucoup de difficultés. Des fois, en fait, on a besoin vraiment, en fait, de l'entourage pour qu'il puisse en fait, vous accompagner.
On va donner une dernière fois la parole à Aissatou Wilan, qui est donc étudiante en ressources humaines et start-upeuse. J'aurais une question qui me vient. Est-ce que vous parlez vous-même aux plus jeunes que vous ? Les petits frères, les petites sœurs, les amis qui sont encore plus jeunes, qui ont 15 ans aujourd'hui, qui sont très nombreux au Sénégal. Est-ce que vous donnez déjà des conseils, vous qui avez déjà franchi des étapes ?
Pour dire vrai, actuellement, moi, dans ma famille, déjà, j'ai mes petites cousines qui ont entre 15 et 17 ans. Et on parle beaucoup de l'entrepreneuriat. Et actuellement, elles sont vraiment intéressées par ce sujet.
Ah oui, déjà.
Déjà des idées, etc. Même en dehors des plus jeunes, il y a les plus grands aussi. Parce que, disons que, par exemple, dans l'école, dans l'université actuellement, il y a des jeunes, eux, ils ont la même mentalité un peu que nos parents, je vais dire. Parce qu'eux, ils veulent juste trouver un travail et gagner leur salaire. Genre la sécurité de l'emploi. C'est ça, c'est ce qu'ils cherchent. Et on est vraiment d'accord qu'actuellement, l'emploi n'est pas vraiment une sécurité. Mais pas une sécurité. Il faut entreprendre, créer de l'emploi, créer de la ressource et être autonome en quelque sorte. C'est ça. Donc on discute vraiment entre jeunes du même âge, même avec les plus grands et aussi avec nos petits frères.
Merci. Merci à tous pour votre participation. Beaucoup de monde autour de la table aujourd'hui dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Merci à l'Agence universitaire de la francophonie pour l'accueil dans ses locaux ici à Dakar. Merci à Guillaume Munier, toujours aussi efficace réalisateur de votre émission. Merci à vous tous, auditeurs et internautes, qui dialoguez avec nous sur les réseaux sociaux, sur nos comptes Facebook et Twitter, RFI Écho. Abonnez-vous, c'est gratuit, bien sûr, pour suivre au quotidien l'actualité économique vue par les journalistes de RFI. On se quitte en musique sénégalaise, comme il se doit, avec Viviane Chidid. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Dolima, 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 Dolima.